Bonjour à toutes, je suis Sophie Guédon, organisatrice de cette seconde édition du Sommet Réussir au féminin. Si vous voulez augmenter votre joie de vivre, votre santé et mettre de la bonne humeur dans votre vie, vous êtes au bon endroit. En effet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui la pétillante, chaleureuse, dynamique Lynn Bolduc, auteure et conférencière québécoise qui a déjà présenté plus de 1700 conférences, ateliers, formations, aussi bien au sein d'entreprises qu'à la télévision ou à la radio. Lynn ensoleille la vie des gens et sait toucher leur cœur grâce à sa chaleur humaine remarquable. Elle est à l'écoute des besoins de ses interlocuteurs et fait tout pour y apporter des solutions concrètes. Véritable femme de communication, ses propos sont très faciles à intégrer pour tous. Elle est auteure de 6 livres et de nombreux CD. C'est une véritable artiste de la scène, porteuse de valeurs de vie, axée sur l'essentiel, le bien-être intérieur, la pleine réalisation personnelle et professionnelle, l'efficacité, la joie de vivre, etc. Dans sa conférence aujourd'hui, elle va nous amener à faire une introspection au cœur de nous-mêmes et nous présenter des solutions pour soutenir notre vitalité et notre joie de vivre au quotidien. Bonjour Lynn.
Bonjour Sophie, merci pour cette touchante présentation que j'ai la surprise d'entendre en même temps que tout le monde. Merci, ça me touche vraiment profondément.
Ah bon, bah écoute, c'est vraiment le ressenti que je voulais faire passer en tout cas.
Merci. Alors, bienvenue à tout le monde qui est présente avec nous aujourd'hui. Ça va être un pur bonheur de partager tout ça ensemble.
Oui, et justement, Lynn, j'avais envie de te demander tout de suite, comment est-ce que la joie de vivre, la santé, le rire sont associés à toi finalement? Comment ça se fait que c'est devenu si important pour toi?
Et toute une question, oui, qui lance vraiment cet entretien avec profondeur une fois de plus. Pour moi, la joie de vivre, c'est vraiment d'aller chercher une dimension au niveau de la réalisation de soi. Quelque chose qui n'est pas superficiel, mais qui nous amène à se sentir dans ce que je dirais la joie d'être. D'être vraiment bien ancré dans notre existence, dans nos valeurs de vie, etc. La santé, pour moi aussi, c'est un incontournable, on le sait, c'est une tradition de dire quand la santé va, en principe, on a tout ce qu'il faut pour être capable d'aller de l'avant dans l'ensemble des domaines de notre vie. Mais je vous parlerai dans quelques instants, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, pourquoi la santé, c'est vraiment excessivement important. Et si on en arrive au rire, bien le rire, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas que superficiel. Oui, on va aller voir un spectacle d'un humoriste, on va rire au quotidien, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est un rire qui vient du cœur? Un rire qui s'élance à gorge déployée, qui est ressenti? Ou c'est un rire parfois pour camoufler une certaine façade, pour ne pas démontrer qu'est-ce qu'on aimerait verbaliser à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, c'est toute cette dimension-là pour moi qui fait que pourquoi c'est important, joie de vivre, santé et rire, parce que ce sont des éléments qui nous permettent de prendre un plein épanouissement, mais qui s'ils ne sont pas bien vécus, on n'a pas assez d'outils, bien, on a de la difficulté à sentir qu'on se réalise vraiment pleinement. Et ça m'amène, Sophie, à partager pourquoi, oui, la santé, c'est excessivement important. C'est un peu relié à mon parcours si je fais ce métier-là. Il y a des gens qui me disent des fois, « Ah, oh, ça a l'air facile, toi, tout a l'air d'aller bien, t'es en forme. » Oui, maintenant, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et tu sais, chaque personne, on est un grand livre d'histoire, et tout comme les gens qui nous écoutent. Alors moi, mon histoire, elle est très banal à côté de certaines personnes. On n'est pas là pour faire une comparaison de nos histoires de vie, mais réaliser qu'est-ce qu'on en fait et comment on a appris à les transformer, c'est ça qui est important pour moi. Donc, moi, pour faire l'histoire, pourquoi j'étais si sensible à la santé que c'est toujours présent et autant pour la joie de vivre, j'étais enfant unique jusqu'à 6 ans. Il n'y a rien de spécial là. Et on vivait dans un rang de campagne, par contre, mes parents étaient des agriculteurs et mes parents avaient une très grosse ferme, donc il n'y avait pas de voisins immédiats. Alors, enfant unique, pas de voisins, je n'ai pas eu de contacts sociaux quand j'étais dans ma petite enfance. Ce qui fait que je suis arrivée à l'école et j'étais déjà très timide, j'avais des super bons parents, mais très introvertie, alors je ne sais pas trop comment faire ma place, je suis vraiment très très rejetée dans tout mon primaire. J'arrive au secondaire, à l'école, à ce moment-là, les choses ne s'améliorent pas dans cette nouvelle étape. C'est beaucoup d'intimidation que j'ai vécu, de harcèlement, et là, je me mets à prendre énormément de poids en très, très, très peu de temps. Je fais des crises de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, d'agoraphobie, de claustrophobie, j'ai beaucoup de douleurs physiques qui s'installent. S'ajoute à ça un accident avec un choc nerveux non traité, ce qui fait que les 15 années qui ont suivi, j'ai vécu beaucoup étourdi avec des douleurs psychologiques, je prends l'expression, émotionnelles et physiques. Et les médecins m'hospitalisent, mes parents me font hospitaliser, et les médecins me disent à un moment donné, bien, après 8 jours d'examen profond, t'as absolument rien. Et moi, je suis dans un état pitoyable. Je me sens en chute libre et je me dis, si nos médecins ne trouvent pas ce que j'ai, nos meilleurs spécialistes au Québec, qui va le trouver? Et là, je suis en survie pendant plusieurs années d'une certaine façon. Je parle pas à personne de qu'est-ce que je vis. Souvent, on perd notre joie de vivre, mais on veut pas se sentir diminué à la face du monde. Donc, je gardais tout en dedans. Mais ça m'a rattrapé un petit peu plus tard. Oui, j'ai eu mes enfants, j'ai quand même eu plein de belles choses à travers. Mais à 29 ans, ce qui n'avait pas sorti en MOTS, a sorti en MAUX et j'étais souvent un clown triste. Je montrais une belle façade, je faisais rire les gens, mais ça pleurait en dedans. Alors, à 29 ans, je me suis retrouvée vraiment, dans le fond, ce que j'avais fait à l'adolescence, c'était une dépression non diagnostiquée. Et j'ai répété le tout à 29 ans, mais d'une façon encore plus accentuée, où je suis devenue dans une maigreur extrême et je ne mangeais plus, je ne dormais plus depuis environ 3 semaines. Et là, mon médecin me dit, tu as besoin vraiment de quelque chose pour t'aider au moins à dormir et à te calmer les nerfs. Sinon, je ne sais pas si tu passeras à travers. C'était assez clair comme message. Et de là, ma vie a commencé à changer. Et j'ai accepté un soutien médical pendant 1 mois. Mon médecin dit, je te fais confiance que tu es capable de te prendre en main. Et c'est là que vraiment la vie m'a amené à faire toutes sortes de formations en lien avec la santé, avec la joie de vivre, avec l'aspect plus naturel de la santé aussi, dans l'aspect alternatif. Et ça a duré environ 4 ans. Et là, je sentais une pulsion, mais tellement forte, qui m'amenait à devoir enseigner là-dedans, parce que j'ai oublié de mentionner qu'ayant eu des problèmes de poids à l'adolescence, j'étais allée étudier en nutrition et j'ai travaillé là-dedans 12 ans. Donc, dimension santé pour moi, ça a pris différentes facettes dans ma vie et c'est un incontournable maintenant d'appliquer ces valeurs de vie-là dans ma vie et de les partager pour que joie de vivre, santé et rire peuvent s'exprimer au cœur de chacun. Et c'est ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui.
Super, merci. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre le plaisir et la joie?
Des belles questions, Sophie. Oui, le plaisir, c'est quelque chose qui est plus superficiel, je dirais, mais tout aussi important. On a une vie physique, donc c'est important, le plaisir d'être entre amis, le plaisir de bien manger, le plaisir d'écouter un bon film, bon. Ces choses-là du quotidien relèvent beaucoup du plaisir qui, oui, vont être des créateurs de joie. Mais la joie, c'est un état. Un état qui fait dire en dedans que je me sens bien, que je me sens en harmonie en dedans, que ça vibre bien, que je suis bien. Donc, cet état-là de joie, je pense que c'est quand on apprend à vivre dans la conscience de qui on est. S'observer, agir, réagir, sans faire une religion de ça, pas du tout. Mais est-ce que dans ce que je suis, dans ce que je fais, je suis en train d'agir en fonction de mes valeurs? J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais vraiment, la joie, c'est un état que dans chaque petit geste du quotidien, on apprend à créer quand on est en accord avec soi. Mmh. C'est dans ce sens-là, vraiment, que je le vois.
D'accord, oui. Alors, tu parlais tu faisais un lien entre la santé et la joie. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu quel est ce lien? Est-ce qu'il y a des gens qui ont amélioré leur santé grâce au rire, par exemple?
Oui, je fais juste avant, oui, je trouve la question pertinente aussi. Avant de mentionner un exemple en particulier, j'avais vu une statistique un jour qui disait qu'en 1939, les gens riaient en moyenne 19 minutes par jour. En 1982, 6 minutes. En 1994, et une journaliste qui m'interviewait l'année dernière pour un magazine me disait qu'on en serait rendu en Occident à environ une minute de rire par jour quand ça nous en prendrait peut-être 13-14. Alors, je demande à chacun, avant de partager un exemple d'une personne qui a eu un beau résultat avec le rire, sur une échelle de 1 à 10 en ce moment dans votre vie, où se situe votre niveau de rire, de joie, d'ouverture à la vie? Des fois, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas laissé aller à des fous rires, à se donner ce droit-là. Mais souvent, quand on parle du rire, on a un sentiment d'infantilité dans la vie. Pour bien des gens, sentiment d'infantiliser leur vie, de se sentir moins professionnel, de se sentir moins mature. Et pourtant, on dit dans un milieu corporatif, entre autres, une équipe qui rit est une équipe unie et ces valeurs de vie-là sont importantes. Et oui, ça m'amène à partager, entre autres, dans ma pratique, je vois beaucoup de gens qui, par des prises de conscience telles, ont vécu beaucoup d'améliorations au niveau de leur santé sur différents plans, que ce soit physique ou émotionnel, etc. Mais une histoire qui ressort, je pense, sur la scène internationale en lien avec le rire, c'est l'histoire de la guérison de Norman Cousins, qui est un journaliste américain qui a travaillé partout dans le monde. Et ce journaliste-là, à ce moment-là de sa vie, se fait annoncer qu'il a une maladie dégénératrice de la colonne vertébrale, soit une spondylarthrite ankylosante. Et les médecins lui donnent une chance sur 500 seulement de pouvoir s'en sortir. Et tout à coup, il y a un de ses amis qui lui amène des vidéos comiques et il s'aperçoit qu'en écoutant tout ça, ses douleurs diminuent et son état général est vraiment beaucoup plus agréable que tout ce qu'il a connu dernièrement et les médicaments arrivaient difficilement à améliorer son état au niveau de la douleur, etc. Donc, il s'aperçoit qu'il y a une amélioration notable en quelques instants avec ces vidéos-là. Il dit, est-ce que c'est possible que ce soit le rire qui m'amène vraiment à ressentir tout ça? Il faut vraiment que je refasse l'expérience. Ce qui l'a amené pendant quelques mois à écouter le maximum de vidéos comiques qu'il pouvait. Il demandait aux gens qui allaient le voir de lui raconter des blagues. Et il a été la surprise des médecins parce qu'il est sorti de l'hôpital et est devenu enseignant, si je me souviens bien, dans une faculté de médecine en Californie pour démontrer ce qu'il avait découvert à travers de tout ça. Alors, ne soyons pas utopiques. Ce n'est pas une baguette magique qui vient changer tout pour tout le monde dans un clin d'œil. Mais moi, j'ai une philosophie qui dit, aidons nos médecins à nous aider. Si une personne arrive dans le bureau de son médecin et lui dit, docteur, guérissez-moi, il va faire le meilleur ou elle va faire le meilleur en tant qu'être humain et en tant que médecin. Mais on a une responsabilité au quotidien de prendre soin de soi et d'avoir des bonnes pratiques de vie, une bonne hygiène de vie et la joie de vivre en fait partie aussi. Alors voilà.
D'accord. Et est-ce que tu fais un amalgame entre joie de vivre et rire?
Oui, d'une certaine façon, c'est interrelié parce que le rire, c'est... Les deux sont indissociables d'une certaine façon. Je dis bien d'une certaine façon parce que la joie de vivre va créer une ouverture au rire dans notre quotidien. Elle va nous rendre plus disponibles à tout ça parce que c'est ce qu'on choisit d'être, c'est ce qu'on choisit de vivre. Et le rire, bien, quand on a cette ouverture-là, qu'on se permet d'avoir la simplicité d'un cœur d'enfant, bien, on crée notre joie de vivre par le fait même. Je dis aux gens des fois, on va vouloir attirer un petit enfant pour jouer avec. Ah, moi, je suis mamie d'une petite fille de 2 ans et d'une toute petite aussi qui vient de naître via ma fille. Puis, à ce moment-là, souvent, quand on arrive pour attirer un petit enfant, on est là, puis on va dire, viens voir mamie, par exemple. On se met tout rayonnant, on a le sourire aux lèvres. Et est-ce qu'on est capable de s'attirer à soi-même avec le même élan du cœur? On n'a rien à faire paraître dans notre vie, on a juste à être. Mais est-ce qu'on est capable de se valoriser soi, de reconnaître la grandeur, de la beauté de la personne qu'on est. Il n'y a pas d'ego là-dedans. Mais je taquine les gens des fois. Au Québec, je ne sais pas si c'est pareil à travers différents pays, mais au Québec, pour ce qui est de nos passeports, entre autres, je dirais même au Canada, là, quand notre photo passeport est prise, on n'a pas le droit d'avoir de sourire et on n'est pas nécessairement à notre meilleur. Alors, je dis, si on se regarde dans le miroir un bon matin et qu'on on trouve qu'on ressemble à notre photo passeport, il faudrait peut-être se poser des questions. Donc, la joie, le rire, c'est un élan du cœur qu'on a à se donner, à choisir dans notre quotidien.
Ok. Est-ce que tu peux préciser quels sont les différents bienfaits du rire?
Il y en a beaucoup. On pourrait en parler très, très, très longtemps. Parce que quand j'écris mon livre « Le mieux-être par le rire, réveiller son médecin intérieur » en sous-titre, ça m'a amené à faire beaucoup de recherches sur ce que les médecins et les scientifiques avaient découvert, avaient écrit par rapport au rire, à la joie de vivre, au plaisir et tout ça. Mais pour en faire un survol quand même très concis, je vous dirais que le rire vraiment va stimuler entre autres dans notre cerveau les endorphines qui agissent comme un euphorisant naturel, un antidouleur, anti-anxiété, anti-insomnie, antidépresseur et j'en passe. Donc, le rire vient faire un massage complet aussi au niveau de notre musculature des pieds à la tête. C'est comme un jogging intérieur d'une certaine façon. Ça vient faire un massage aussi au niveau de la colonne vertébrale. Donc, en plus de l'effet hormonal qui vient aider à calmer le système nerveux, on a un effet de massage physique aussi qui aide à détendre la colonne vertébrale, qui aide à détendre le corps, bref, comme je disais. Ça vient faire un massage complet de nos organes abdominaux. Faites juste observer tous les mondes qui nous écoutent aujourd'hui. Quand on rit, souvent toujours le diaphragme, le muscle qu'on a vis-à-vis des côtes flottantes, bref, va se secouer. Donc, il y a un effet de massage qui se fait au niveau des organes internes, qui est un effet revitalisant, régénérateur, en quelque sorte. Donc, ça a énormément d'effets. On dit qu'une minute de rire équivaudrait, entre autres, à 10 minutes de rameur dans un gym. Et une minute de rire équivaut aussi, selon une statistique que j'ai vue, qui fait parfois sourire, mais qui démontre comment est-ce que c'est une énergie puissante et régénératrice. Une minute de rire équivaudrait à l'énergie d'un orgasme. Donc, ça démontre comment est-ce que c'est puissant comme énergie que ça véhicule dans le corps. Alors, laissons aller le cœur et ce qu'on est à cette essence de vie qui est si importante et qui a tant de bienfaits vraiment.
Et donc, quand tu disais que le rire faisait un massage et apportait de la détente, du coup, c'est un excellent moyen pour soigner le stress, j'imagine.
Oui, tu as raison, Sophie, parce que le stress, on sait, c'est global dans nos vies. Il y a tellement de sources de stress. J'avais vu une statistique, qu'une psychologue industrielle avait partagée il y a quelques années au Québec et qui disait, si on retourne à 4 générations environ, les gens vivaient 3 à 5 stimulations de stress par semaine. Ces années-ci, et là on retourne à quelques années, comme je mentionne que la statistique m'avait été partagée, c'était 50 stimulations de stress par semaine il y a quelques années. Où pouvons-nous bien en être au niveau quotidien? Sûrement que c'est dépassé. On a juste à regarder avec nos téléphones intelligents comment est-ce qu'on se retrouve souvent là-dessus. La vie qui a pris un rythme qui est toujours plus accéléré. Alors, on doit en être capable de se déposer dans notre quotidien. Et on provient d'une petite expérience tout à l'heure pour amener les gens peut-être à apprendre à relaxer d'une façon concrète. Donc, c'est important d'en arriver à être dans la conscience de notre corps. Et je m'adresse à chacun, chacune qui nous écoute en ce moment. Est-ce que votre corps, par exemple, est tendu ou détendu? Par exemple, au niveau des épaules, au niveau des mâchoires. Souvent, il y a tellement de tensions qui se jettent au niveau des mâchoires. Moi, si je me réfère aux années difficiles que je partageais tout à l'heure, j'avais les mâchoires tellement tendues que ça barrait à l'occasion, et j'avais le cou comme tout gonflé de tension. Donc, juste prendre conscience, d'être dans la conscience du corps, je relâche au niveau des épaules, au niveau de l'ensemble de mon corps, au niveau des mâchoires, prendre le temps de bien respirer, prendre le temps de bouger aussi. Souvent, on est très stressé, on est beaucoup dans notre mental à avoir mille et une choses à gérer, mais le corps ne bouge souvent pas suffisamment. on dit l'exercice, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, moi, l'exercice physique, j'adore ça, en autant que ce soit les autres qui le fassent. » Mm-hmm. Mais pourtant, j'ai une amie médecin, entre autres, qui me partageait souvent au niveau des hanches, les gens, bon, vont avoir beaucoup d'opérations, tout ça. Pourquoi le corps, l'énergie, ça cristallise d'une certaine façon pour le mettre en image? Parce qu'on ne bouge pas suffisamment. Donc, de laisser notre matière se permettre d'avoir une meilleure tonicité par le mouvement, c'est une façon aussi de s'aider à gérer le stress. On peut être en train de préparer le repas, juste de lever les pieds, s'accouder, se mettre les mains sur le bord du comptoir de la cuisine, bouger un peu, faire des légers mouvements. Tout est propice à bouger. Oui, un entraînement régulier va aider encore plus au niveau du stress, mais être dans cette conscience-là. Dans ce que je fais actuellement, est-ce que je suis en train de m'aimer? Et ça va gérer beaucoup le stress, cette conscience-là. Est-ce que je suis en train de m'aimer dans ma façon de bouger, dans la façon d'utiliser mon corps, dans la façon de me nourrir, dans ma façon de respirer, dans ma façon de penser? Oui, c'est peut-être un peu philosophique comme approche, mais ça va chercher comment on peut créer la joie de vivre dans notre quotidien, comment on peut créer une meilleure santé au sein de notre être, et comment on peut mieux gérer notre stress, d'avoir une dimension globale de qu'est-ce qu'on peut être comme tel. Donc, c'est très vaste comme sujet, la gestion du stress, mais brièvement, je pense que ça va chercher beaucoup ces petits outils-là de nous amener dans une pleine conscience de soi. Et si je me réfère encore à mon histoire, moi à l'époque, pour retrouver mon équilibre, ma santé, j'avais eu tellement peur de plus être capable de me sortir de cette impasse que quand j'ai réussi, c'est à travers le calme, la méditation, entre autres, et de meilleures habitudes de vie que j'avais retrouvé ma santé psychologique, émotionnelle et physique. Mais je m'étais fait une promesse que j'ai toujours gardée, qui était au moins 15 minutes par jour. Ce n'est pas beaucoup, 15 minutes, mais au moins 15 minutes par jour, je vais vraiment prendre du temps pour moi, pour me recentrer, pour m'accorder priorité face à moi-même dans ma vie. Et souvent, ça a été plus que ça. Et même si j'ai un rythme quand même bien actif à travers mon métier d'auteur, conférencière et formatrice qui m'amène à voyager beaucoup, bien vraiment, cet espace-là, pour moi, c'est sacré de me donner ça tous les jours. Donc, c'est ce que je souhaite vraiment à chacun, de se mettre dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est. Donc, c'est des petites dimensions à respecter qui sont importantes.
Mm-hmm. Et est-ce que tu peux nous donner des outils concrets, nous apprendre à nous relaxer pour ressentir plus de joie dans notre vie alors?
On va faire quelque chose dans la pratique, Sophie, si tu permets, et mm-hmm. Je vais amener les gens dans une petite intériorisation par rapport à quelle est votre raison d'être. Êtes-vous heureux actuellement? Et souvent, le stress et notre manque de relaxation nous privent de ça. Alors, on va faire une toute petite expérience où je vous invite tout le monde à fermer vos yeux comme si vous étiez vraiment là, en tête à tête avec vous-même en ce moment. Et moi, je veux juste vous guider dans une petite introspection sur la place de vos valeurs de vie, votre raison d'être, l'importance de prendre du temps pour soi. Bref, on part un petit peu à l'aventure là-dedans pour quelques instants. Donc, je vous invite juste à fermer vos yeux si ce n'est déjà fait, à juste prendre conscience de votre respiration tout en douceur, de relâcher les tensions qu'il pourrait y avoir au niveau de vos mâchoires, de vos épaules, comme on mentionnait tout à l'heure, des pieds à la tête. On relâche. Tout simplement, comme si on s'accroche un sourire à l'intérieur, un sourire porteur de joie, de sérénité, comme si ce sourire allait s'imprégner au niveau de chaque organe pour vraiment amener un élan de régénération, de joie dans chaque cellule. Et je vous laisse juste quelques secondes, juste pour vous imprégner de cette visualisation-là, afin de vous amener dans une courte introspection. Alors, souvent, ça fait longtemps pour certaines personnes qu'on ne s'est pas offert, et je ne parle pas pour moi, là, mais que vous vous êtes peut-être pas offert certains moments d'intériorisation, de relaxation. Et souvent trop de gens attendent un coup dur des fois pour s'offrir à tout ça, pour s'ouvrir à tout ça. Alors, je vous invite juste, dans chaque question, chaque introspection dans laquelle je vais vous amener, à prendre le temps de ressentir en profondeur la réponse qui va émerger à l'intérieur de vous. Alors, je vais parler comme si c'était vous qui vous posiez la question. Alors, quelle est ma raison d'être en tant que personne? Si je pense à l'aspect de mon travail, pour qui et pourquoi est-ce que je travaille? Si je fais, par exemple, un travail qui ne me nourrirait pas, est-ce que ma santé tiendra le coup à long terme? Ou au moins, sans culpabilité dans tout ça, là, est-ce qu'au moins, en contrepartie, je prends le temps de faire des activités qui mettent ma créativité à profit, en parallèle à tout ça, afin de préserver mon équilibre? Si l'argent n'existerait pas dans le monde, mais j'aurais un métier, quelque chose à faire pour être utile socialement, est-ce que je serais en train de faire ce que je fais actuellement? Est-ce que je prends vraiment le temps de me relaxer chaque jour? C'est peut-être à travers un moment de 15-20 minutes, une demi-heure, ou c'est peut-être juste dans mon train-train quotidien d'être capable de prendre une toute petite pause, une minute ou deux, et de faire un petit relâchement temporaire qui m'amène vraiment à repartir avec une énergie renouvelée, juste pour prendre un petit recul du mental, du trop-plein de suractivité. Oui, je veux me sentir avec plus de relaxation, plus de joie, mais qu'est-ce qui me passionne le plus au fond de moi? Qu'est-ce qui me donne le plus de joie d'être au jour le jour? Est-ce que c'est ce que je m'offre? Et si je ne parle pas de choses superficielles ou matérielles? Sur le plan de ma santé, est-ce que ma nourriture est vivante, saine? Parce que oui, prendre du temps pour méditer, relaxer, c'est important. Mais si ma nourriture est très sucrée et pas de bonne qualité, ça va créer du stress d'une certaine façon au niveau du système digestif et au niveau du système nerveux. Même si on n'a pas une nourriture qui vient nous nourrir sur le plan cellulaire d'une façon efficace, est-ce que je bouge suffisamment et fréquemment pour permettre à mon corps de façonner sa matière avec équilibre et tonicité? Est-ce que je respire bien, que je respire la vie, que je respire ma vie? Est-ce que je suis à l'aise d'exprimer mon intériorisation, ma spiritualité même? Souvent, il y a encore trop de tabous par rapport à cette essence de soi qu'on aurait le goût de faire transparaître. Et pourtant, la base de la vie, de notre santé, de notre joie, c'est de savoir créer de bonnes intériorisations et de s'exprimer dans ce qu'on est en toute profondeur. Alors, tout en ressentant ce sourire intérieur, en gardant la conscience de la respiration, de cet élan de joie qui est présent, de calme, on peut revenir à ici maintenant se sentant merveilleusement bien. Et je relève la parole à Sophie.
Super, hein, moi tu me prends à froid là, parce que j'ai fait l'exercice comme tout le monde. Et donc...
Bien, regarde Sophie, je te laisse aller dans l'exercice, et moi je vais juste entretenir tout le monde du moment présent dans ce temps-là. Parce que oui, ce qu'on vient de faire, c'est tout le monde, on vient juste de se déposer au moment présent. Souvent, notre vie, et je vais encore faire une référence à moi, à l'époque des années difficiles, je vivais beaucoup d'états dépressifs et je vivais beaucoup d'angoisse. Donc, quand on vit un état, par exemple, qui est plus morose, plus dépressif, souvent, on peut être accroché à quelque chose en lien avec le passé. Oui, notre passé nous sert de bagage, d'expérience, mais si on est là à tenter de rester trop accroché inconsciemment ou consciemment, c'est comme si peut-être 40% de notre énergie qui reste captifs-là et qu'on n'a pas accès dans notre moment présent, pour ainsi dire. Si on est plus dans l'angoisse, l'anxiété, on est souvent en train de s'en faire pour des choses qui arriveront peut-être pas. Notre mental nous amène dans des avenues parfois chaotiques. Et il y a un autre 40% potentiellement qui se retrouve dans le futur, d'une certaine façon. Alors, si dans mon expérience de moi, j'étais alors dans le 40% du passé qui était perdu, dans le 40% du futur qui était aussi inaccessible, il me restait juste 20% de façon imagée pour fonctionner. Donc, être dans le moment présent, c'est être conscient de chaque chose qu'on est en train de faire le plus possible. Je peux pas dire, OK, ça va être un absolu et on réussit ça à 100%, on appelle ça être humain. Mais juste prendre conscience, peut-être pour chacun, du contact de la chaise avec de votre corps avec la chaise en ce moment. On est en train de déguster quelque chose au niveau de l'alimentation, d'être très présent à ce qu'on est en train de faire. On dit par rapport à l'alimentation, entre autres, on devrait idéalement mastiquer chaque bouchée 25 fois pour être, oui, au niveau des enzymes, favoriser l'assimilation, mais être dans la conscience de ce qu'on est en train de faire et que le cerveau puisse aller chercher le réflexe du seuil de satiété. Donc, le moment présent, c'est dans chaque petite chose. C'est la conscience du corps, c'est la conscience de ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis en train de me créer de la joie ou de la souffrance en ce moment? Donc, sans en faire une religion, ne faites plus. Mais savourer l'instant, c'est là que la vie se vit, c'est là que la joie peut se créer. Et c'est vraiment une dimension à se donner le plus possible dans notre quotidien. Est-ce qu'on revient tranquillement, Sophie?
Oui, ça y est, ça. Oui.
Je le sens dans la voix. Mais c'est un cadeau d'entendre la voix qui était très, très zen. Il y a quelques
Ah oui, j'avais fait l'exercice à fond, moi.
C'est merveilleux. Mais c'est tout ça, hein, prendre le temps de se déposer. Tu sais, je reviens à notre but de la conférence aujourd'hui, c'est de développer sa joie de vivre, sa santé au maximum. Donc, c'est toutes des petites choses au quotidien qui viennent faire un tout dans tout ça.
Super. Alors, je pense que maintenant, on pourrait parler de l'ego. Alors, peut-être que ça serait bien de donner une définition de l'ego, parce que c'est pas toujours quelque chose, mais c'est vraiment un sujet qui est dans le cœur de ce qu'on dit actuellement, parce que souvent, la joie de vivre, elle est un peu menacée par notre ego, en fait, hein.
Oh, quelle sagesse, Sophie, oui, de poser une telle question, parce que l'ego, c'est tellement un mot aussi qui est bafoué. C'est un mot qui est souvent, on va grossir, oui, parce que ça a une partie majeure dans notre vie au niveau de l'influence, mais qu'il faut apprendre à dédramatiser aussi. Moi, je dis souvent, quand on parle de l'ego, c'est beaucoup associé à notre mental, à notre corps de souffrance. Notre corps de souffrance, entre autres, c'est un peu comme une partie de nous que je comparais à des poupées russes. On sait, les poupées russes, on a une toute petite poupée, une deuxième plus grande, à aller jusqu'à 7, si je me souviens bien, là, souvent qu'on va voir qui sont une par-dessus là. Alors, on arrive au monde, on est un beau petit bébé, et là, progressivement, la vie commence à se construire, et il y a des insécurités, des fois, des peurs qui se passent au fil des années, et c'est comme si on rajoute des poupées russes par-dessus. D'une certaine façon. Des mécanismes de défense, des mécanismes de protection, j'entrerai pas spécifiquement trop en détail là-dedans, mais qui nous amènent des fois avec les années à sentir que la vie, on transite à travers, mais d'une façon moins légère, moins facile. Et notre ego, souvent, a été là pour nous protéger, pour nous aider à donner une façade qui avait l'air forte. Et ça me rappelle au passage, avant de donner quelques caractéristiques de l'ego, je faisais une conférence dans une entreprise, parce que je travaille beaucoup au niveau des entreprises, des organisations, milieu scolaire, hospitalier, gouvernementaux, etc. Et dans une entreprise, une dame vient me voir à la fin de la conférence et elle me dit, nous avons une personne avec qui c'est très difficile de collaborer au quotidien. Et là, souvent, des gens vont siphonner beaucoup leur énergie parce que l'ego de cette personne est très fort. Et elle dit, moi, je me suis trouvé un petit truc. Je me suis dit que le trésor à l'intérieur de cette personne doit être fragile pour que la carapace soit si dure. Et je me suis dit, oh, que ça part. Souvent, on va rencontrer des personnes, et nous-mêmes, on n'est pas à l'abri de ça. Je pense pas que l'on soit exempt d'ego. Mais on veut être, pour plusieurs, être apprécié, être connu et tout ça. La base, c'est de se le donner à soi-même, on le sait. Mais, socialement parlant, ce sont des valeurs qui sont très présentes. Et souvent, ça va amener vraiment à avoir toutes sortes de comportements très inconscients pour prendre notre place. Donc, pour en revenir aux caractéristiques de l'ego, l'ego, souvent, chaque fois qu'on va dire « Ah oh, bien, moi aussi, je le savais, on a besoin de paraître, de faire valoir nos connaissances », ça ne veut pas dire de ne pas les faire valoir, mais dans quel sens on le fait? Est-ce que c'est pour se sentir quelqu'un ou pour tout simplement partager, aider à l'équipe? C'est bien différent la nuance qu'il peut y avoir. Donc, l'ego, vraiment, va préférer avoir raison souvent que d'être en paix. Et ça, je reviens un petit peu au corps de souffrance avec ça. J'avais oublié une petite nuance. Ce corps de souffrance-là, qui est un mécanisme qui nous a permis de se sentir exister, un mécanisme de défense au fil des années, a souvent besoin d'être, de se sentir exister, de se nourrir comme d'énergie fraîche. Et c'est souvent à travers les confrontations, à travers les guerres de point de vue, que l'être à l'intérieur, l'ego, va se sentir exister. Et tant qu'on n'est pas dans la conscience pour démasquer cette partie de nous, elle va avoir un contrôle phénoménal pour nous faire perdre notre joie de vivre et même notre santé, parce qu'elle nous maintient souvent dans des résistances, dans le connu, au lieu de s'ouvrir à une dimension de soi qui pourrait nous amener des ouvertures nouvelles, nous amener de la joie davantage. Donc l'ego va souvent avoir besoin donc d'avoir raison, d'argumenter, d'avoir de l'attention. Il va souvent avoir besoin d'attention par la pitié, par la sympathie. Souvent des gens, bon, et c'est...
Allô?
Est-ce qu'on m'entend bien, Sophie?
Oui, ça a l'air d'aller. Vas-y, continue.
Bon, c'est beau, ce sont les joies de la technique, alors
oui.
On continue. Donc, c'est ça, l'ego, c'est vraiment une partie de nous qui est souvent reliée au mental, qui nous garde dans le contrôle, dans nos vieilles habitudes et tout ça. Et un petit exercice très simple que je peux partager à chacun aujourd'hui pour le reconnaître, et c'est très efficace. Je vous invite, ça peut être à partir d'aujourd'hui ou dans les prochains jours, de temps en temps dans vos journées, de prendre une heure, par exemple. Ou vous vous dites, dans la prochaine heure, je vais faire de mon mieux pour être sans jugement, ni critique, ni excuse envers moi-même et les autres. Je sais qu'on vient probablement de gâcher la journée de bien des gens. À la blague, cet exercice de s'observer, agir, réagir dans nos propos, etc., nous amène une prise de conscience phénoménale sur comment souvent on siphonne notre énergie avec des choses banales, par besoin d'avoir raison, par besoin de se faire valoir. Et quand on prend conscience de ça, ça facilite tellement les communications, on récupère énormément d'énergie et on le voit venir, notre ego et celui des autres, beaucoup plus facilement pour éviter de donner de l'emprise à tout ça. Parce qu'une communication avec nos proches, nos collègues, notre famille, qui se veut dépourvue d'ego, va se faire beaucoup plus au niveau du cœur. On parle de nos communications, justement. Je vais prendre la relation parent-enfant, par exemple. Est-ce que par rapport à mon enfant, je suis en train de l'écouter ou de l'entendre? L'entendre, ça va être comment je peux aller chercher une relation de cœur avec mon enfant, le guider, être capable de l'aider à s'épanouir, de rehausser son estime. L'écouter, souvent, des fois, ça peut être plus superficiel et nos vieux modèles, nos vieilles façons de faire peuvent prendre le dessus, notre ego, tout ça peut influencer la communication. Donc, à chaque personne que l'on rencontre, y compris soi-même, comment je peux mieux entendre au-delà des apparences et on n'aura plus le besoin d'être dans une guerre de point de vue, de faire valoir nos idées avec autant de dureté des fois. Et quand je parle de faire valoir nos idées, ça n'a rien à voir avec les besoins de changements sociaux, avec des besoins d'évolution. Mais des fois, c'est les besoins de contrôle qui font qu'on aimerait ça que l'autre soit une deuxième copie de nous-mêmes. Et ça n'entre pas dans une dimension de communication constructive, mais ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. Voilà.
OK, on prend rendez-vous pour l'année prochaine, alors. Et Par rapport au travail, par exemple, comment est-ce qu'on peut amener de la joie au travail et se sentir plus heureux?
Oui, ce qu'on vient de parler, je pense qu'on fait partie aussi. Et moi, je me dis, on a la terre entière pour aller travailler. Qu'est-ce qui fait qu'on est à un tel endroit? OK? Dans notre quotidien, je pense sur le plan professionnel, on y passe une partie majeure de notre vie. Alors, le travail pour moi, ce qu'on pourrait même appeler épanouissement professionnel, ce qui fait moins lourd que travail, va nous amener à s'épanouir. Mais est-ce que c'est le sentiment qu'on a de réaliser au quotidien? Sinon, est-ce qu'on est en train de perdre notre vie à la gagner d'une certaine façon? Donc, dans notre quotidien au travail, je pense que c'est important encore plus de vivre le moment présent et de sentir qu'on est là par l'utilisation de nos talents uniques, qu'on ne s'en va pas seulement chercher une paye, un salaire, en commençant à 9h le matin et en finissant à 17h le soir. Ça va être très long à ce moment-là. Donc, comment je sens que je m'épanouis là-dedans? Oui, j'ai la terre entière pour aller travailler. Qu'est-ce qui fait que je suis là? Qu'est-ce que je peux y apprendre? Peut-être que ce n'est pas ce qui convient. Moi, je parle pas pour moi quand je dis je m'adresse à chacun, là. Moi, je fais ce qui me passionne le plus depuis tant d'années. Depuis 1995, j'ai fait le choix de créer mon métier à partir de la grande question qui est si l'argent n'existait pas, comme j'ai mentionné précédemment, mais que j'aurais un métier à me choisir pour être utile socialement, je ferais quoi? Et c'est là que je l'ai créé. La pulsion intérieure m'amenait vraiment à aller partager des choses, des outils, des prises de conscience à différentes personnes, dans différents milieux, dans différents pays, parce que c'était ça qui me fait vibrer. Alors chacun, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, est-ce que ça c'est présent? Et si c'est pas le cas, comment je peux au moins mieux tirer parti de qu'est-ce qui est là? Si je résiste au changement, il va se faire pareil, le changement. Ça va changer quoi de résister? Ça veut pas dire d'être d'accord de tout d'une façon innocente, là. Mais comment je peux aller développer cette flexibilité-là? Mais c'est en voyant le côté positif des choses, c'est en étant plus dans mon moment présent, dans les belles valeurs de vie qui peuvent ressortir. Et si le travail ne convient vraiment pas et qu'un changement s'impose, bien au lieu de critiquer ce qui était là, de critiquer le patron, de critiquer les façons de faire, les collègues, peu importe, c'est de remercier pour qu'est-ce qu'on vient d'y apprendre. Oui, j'ai peut-être pas toujours été en accord avec qu'est-ce qui était là, mais merci pour qu'est-ce que j'en apprends. Maintenant, je veux quoi? Là, ça va être constructif. Donc, être capable d'aller chercher la joie au travail, de s'y sentir heureux, c'est d'être capable d'aller dans des dimensions comme ça, de mettre une fréquence au niveau des beaux mots qu'on peut partager, de s'informer, ah, comment tu vas aujourd'hui? C'est bien différent de comment ça va et de ne pas écouter la réponse. D'aller chercher la dimension humaine, de regarder l'autre au-delà de la façade, de s'informer, ton petit enfant qui allait mal hier, comment ça va aujourd'hui? J'ai vu, moi, dans des entreprises, des patrons qui faisaient le tour de l'usine et qui se met des bonjours, des sourires à chacun, s'informait. Et la relation humaine qu'il avait avec le capital humain était totalement différente. Et j'en ai vu d'autres, n'ont même pas été capables de me nommer le nom de 50% de leur cadre supérieur. Donc, toute cette dimension-là crée de la joie au travail qui fait qu'on s'y sent bien et on dit une équipe qui rit est une équipe unie. Alors, quand je me présente au travail, comment je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, y compris la mienne, être capable d'être dans la gratitude, dire merci, de donner au lieu de chercher à prendre principalement, ça crée des relations humaines beaucoup plus riches. Et si on fait les choses par passion, qu'on est en accord avec nos valeurs de vie, qu'on stimule la joie au travail, bien, l'aspect financier va venir beaucoup plus facilement que si quelqu'un est dans carrément quelque chose à l'encontre de lui-même. Ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un entretien très, très élaboré, mais je pense que ces petites prises de conscience-là nous amènent vraiment à agrandir, je dirais, notre contenant intérieur pour faire place à la joie. Et ça m'amène à faire un petit parallèle avec le fait qu'on pourrait aller à une rivière, se chercher de l'eau pour arroser notre jardin, notre potager en plein été. On va en ramener très peu, sinon il va seulement avec une cuillère. Mais on peut y aller avec le plus grand camion-citerne que la ville peut nous offrir et on va en ramener des quantités importantes. Alors, la vie ne pourra jamais nous offrir plus que la grandeur de notre contenant. Alors, dans mon quotidien, dans mon moment présent, j'ai la chance, l'opportunité de créer ma joie, de créer ma santé, de créer mon bonheur et même mon rire.
Pardon, j'ai pas compris. Tu as la capacité de créer ton bonheur?
de créer notre bonheur dans notre quotidien quand on est ouvert à toutes ces dimensions-là, la capacité de créer notre joie de vivre, de créer notre joie d'être, de créer notre santé et de créer notre bonheur et notre rire.
Notre rire, voilà, c'est ça que... Et comment tu nous dirais, comment est-ce qu'on peut faire pour agrandir notre contenant intérieur?
Mais c'est un petit peu tout ça qui, dans le fond, qu'on vient de partager. Bref, j'ai peut-être devancé les choses là, par rapport à un tel sujet, mais oui, c'est de se donner le droit aussi que je pourrais ajouter, le droit d'être heureux. Le droit, il y a toujours temps d'avoir une enfance heureuse. On se dit des fois, ah, oh, moi, j'ai des personnes qui vont me dire, ah, oh, j'ai pas eu cette chance-là, j'ai été élevée dans un milieu violent ou quoi que ce soit. Oui, le passé a existé, mais se faire aider aux besoins, ça va aider à agrandir notre contenant à la joie de vivre. Le moment présent va aider de choisir d'être en accord avec nos valeurs. Et quand on parle du moment présent versus agrandir notre contenant intérieur, j'ai une dame qui vient me voir dans la dernière année à la fin d'une conférence et elle était vraiment restée accrochée au passé. Elle me dit, ah, c'est très difficile cette semaine pour moi. Elle dit, ces temps-ci aussi. Elle dit, ma fille est décédée. Elle fait une toute petite pause et elle me regarde, elle dit, il y a 15 ans. Elle a arrêté de vivre, cette dame, il y a 15 ans. Et des personnes, je me souviens d'une dame qui était venue me voir à la fin d'une conférence aussi, et elle me dit, je viens de vivre de la culpabilité parce qu'on a fait une conférence qui était très dynamique, où le rire avait été très, très, très présent, ce qui est différent. Aujourd'hui, on développe plus un contenu de profondeur, mais quand c'était vécu en salle, à ce moment-là, on est allé dans un aspect ludique, pratico-pratique, et elle dit, j'ai vécu beaucoup de culpabilité quand j'y ris aujourd'hui et je lui demande pourquoi. Elle me dit, ma mère est décédée il y a 2 semaines et dans notre culture familiale, c'est très mal vu de rire quand on est en deuil. Alors, dans notre vie, on a souvent à en faire des deuils, ne serait-ce que des deuils de nos vieilles façons de faire. Et pour ramener à cette dame, je lui dis, si votre maman était là, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Elle me dit, c'est certain qu'elle me dirait de vivre, de rire et de profiter de ce que la vie m'offre ici et maintenant. Alors, agrandir notre contenant à l'intérieur, c'est se donner le droit de vivre, se donner le droit de vibrer à la joie, se choisir une fois pour toutes s'il le faut. Et ça ne veut pas dire qu'on écrase les autres, mais agir en fonction de soi, se faire aider pour dénouer certaines vieilles mémoires qui peuvent nous empêcher d'avancer librement. Et tout ça va agrandir vraiment notre contenant intérieur. Voilà.
OK. Alors, pour en revenir au travail, j'aurais bien aimé quand même que tu développes un petit peu, parce que je m'aperçois qu'il y a quand même... une quantité énorme de gens qui vont au travail vraiment pour parce que c'est un job alimentaire et pour ramener de l'argent. Comment est-ce qu'on peut faire pour si on se sent tenaillé par ce besoin de ramener de l'argent et qui nous fait accepter un travail qui n'est pas forcément un travail où on s'épanouit, comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Est-ce qu'il faut absolument claquer la porte de son travail? Est-ce que bon, tu as suggéré d'arriver
ouais,
en étant plus ouvert, plus de bonne humeur. Mais des fois, les gens sont tellement obnubilés par la nécessité de gagner de l'argent qu'ils n'arrivent pas à avoir cette légèreté qui supposerait d'arriver, d'être un peu l'élément sympathique. Ouais. Voilà.
Ça me fait penser à 2-3 exemples, Sophie, pendant que tu me mentionnes ça. C'est que... On a parlé quand même précédemment du travail, de l'importance d'être bien dans notre moment présent, mais oui, il y a une réalité pour bien des gens que le travail n'est pas nécessairement toujours source de passion. Et un producteur télé avec qui je travaillais pour une émission qui avait été faite sur ma vie pour Radio-Canada me disait que 80% des gens n'aimeraient pas ce qu'ils font. C'est majeur. Ça ne veut pas dire nécessairement de changer d'emploi, mais de revoir avec quelle attitude, des fois, on peut le faire, tant bien que mal. Et des fois, ça va être un métier qui va toujours passionner la personne, mais elle n'y trouve plus de joie aussi importante. Et ça me rappelle, dans un premier exemple, une infirmière qui travaillait à l'urgence de l'hôpital. Et elle dit, je suis... tenez, ça ne correspond plus à qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Je vais retourner aux études, étudier pour travailler en petite enfance. Et quelqu'un lui dit, mais tu n'as pas pensé t'en aller comme infirmière, mais en pédiatrie ou avec les poupons? Elle dit, génial. Et elle s'est en allée dans ce département-là et tout s'est transformé. Il y en a d'autres, par contre, que le travail, ils vont toujours y aller à reculons, vraiment, parce que ça ne correspond pas, et oui, c'est un gang-tin, tout simplement. Ça donne quoi d'être dans la résistance? Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi, je garde toujours en arrière-plan la notion de la santé dans tout ça. Oui, pour l'instant, c'est le gang-tin. Est-ce que ça va ajouter un plus de siphonner la vitalité, de nuire à la santé par une attitude qui va être très, très axée sur le mental, la critique, etc.? Va falloir que la personne le fasse pareil pour l'instant, en attendant de choisir de faire autre chose, par exemple. Donc, ça va être une dimension. Comment on pourrait l'équilibrer dans un cas extrême? Je donne un exemple, une personne... serait comptable, par exemple. La personne pourrait beaucoup se réaliser dans son travail, mais si initialement le choix n'aurait pas été le sien, mais qui aurait choisi le métier pour faire beaucoup d'argent, justement, est-ce que l'harmonie va être totale? Oui, la personne sent que financièrement, c'est merveilleux comme travail, elle aime ça jusqu'à un certain point, mais son élan du cœur serait plus dans la créativité, parce que la personne a un talent comme musicien, par exemple. Comment on pourrait le gérer? Moi, je me souviens, dans une entreprise avec qui j'ai travaillé, l'entreprise avait fondé différents comités sociaux qui mettaient à profit les talents de chacun. Donc, si une personne aimait son travail, mais sentait que sa créativité n'était pas optimale, il y avait quelques personnes, entre autres, qui avaient fondé un groupe de musique. Alors, il y en avait 3-4 qui jouaient de la musique, de la guitare, du piano, deux autres personnes qui chantaient. Et ce que ça faisait, c'est que pour se sortir du cadre de travail qui était parfois lourd, il savait qu'il pouvait, entre employés, se retrouver par des intérêts communs et créer quelque chose. Donc, ça l'allégeait le quotidien parce qu'il savait qu'en dehors de ça, il y avait quelque chose qui leur permettait de se réaliser d'une façon encore plus complète. Donc, c'est de voir, est-ce que je me limite à mon cadre quotidien, boulot, métro, boulot, dodo, où je suis capable, avec mes collègues, par exemple, d'aller créer quelque chose qui va m'amener à me réaliser. Et quand on parle de la dimension de la santé, protéger notre santé au travail, je le vois dans ma pratique à quel point il y a beaucoup de cas d'épuisement professionnel. Les gens se sentent dépassés. J'ai côtoyé une personne dernièrement qui gérait 70 employés et on la voyait aller. On dit, ça pourra pas durer longtemps comme ça. Trop bonne personne, souvent, qui ne veut pas déplaire, qui ne veut pas dire non, et qui le fait au risque et péril de sa santé. Et je travaillais dans un milieu juridique un jour, avec beaucoup d'avocats, des gens vraiment, des intervenants dans ce domaine-là. Il y a une personne dans la conférence avec laquelle je faisais 3 heures environ, je crois, et je voyais une personne dans la salle que les grosses larmes coulaient. Et mon but n'était pas de faire pleurer les gens parce qu'on valorisait la joie de vivre et tout ça, mais des fois, il faut passer par ce contact du cœur au plus profond de soi pour réaliser qu'on s'oublie et qu'on est trop dur avec soi et avec les autres. Et le monsieur en question vient me voir à la fin. Il dit, j'ai vécu des résistances dans mon travail, j'ai trop travaillé, je relève d'un infarctus, ça a failli me coûter mon couple et j'ai compris pourquoi que je travaillais. Pour me réaliser et non pour être un robot qui embarque dans l'hypnose collective et qui s'y perd. Donc, pour en revenir à l'essence de base, dans le quotidien, si l'emploi, on le sent pas nécessairement approprié et qu'il est vraiment un gagne-pain, comment je peux y tirer le meilleur parti? M'allier avec les autres dans des conversations qui vont être constructives, être dans mon moment présent en réalisant que merci, j'ai la santé pour être capable de faire qu'est-ce qui est là. Je fais, grâce à mes talents, participer mon milieu à une plus grande réussite, donc d'aller chercher les points les plus positifs qui soient à travers de ça, au lieu de mettre l'amplitude sur la critique qui va être des fois beaucoup plus nuisible qu'autre chose puisqu'il faut le faire pareil. Ainsi, voilà.
Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exercice pratique pour terminer cette conférence?
Est-ce que tout le monde, ça vous tente de jouer? Oui, Sophie, on pourrait faire un petit exercice. Je pense, oui. On va mettre un petit peu de légèreté dans tout ça. Ben, c'est peut-être la légèreté. D'aller dans nos profondeurs, c'est se créer plus de légèreté en soi. Alors, le petit test que je vous propose, les amis, s'intitule « Quel est mon quotient humoristique? » Je vais juste vous demander de prendre un papier et un crayon et je vais vous lire, vous présenter, c'est-à-dire 20 petites affirmations, et je vais vous demander d'inscrire un chiffre à côté de chaque affirmation. Ben, pas à côté de chaque affirmation, mais vous pourrez peut-être vous mettre une séquence de chiffres de 1 à 20 pour les 20 affirmations. Donc, 1 à 20. Et à côté de chacun, je vais vous demander d'écrire un chiffre qui va varier de 0 à 3. 0 étant quelque chose qui est vraiment, ça ne fonctionne pas très bien, disons. Et 3, quelque chose qui est vraiment pour vous très, très présent dans votre vie. Alors, si on prend l'énoncé numéro 1 comme exemple, je crois sincèrement avoir un bon sens de l'humour. Donc, vous prenez quelques secondes pour réfléchir et vous allez y aller spontanément, les amis. On ne prend pas un grand temps de réflexion là-dessus, spontanément. Quand je vous dis « je crois sincèrement avoir un bon sens de l'humour », entre 0, 1, 2 et 3, 3 étant ce qui est le plus merveilleux, quel chiffre vous vient à l'esprit? Alors, vous y allez comme ça, vous inscrivez le chiffre. Alors, on va faire les 20 énoncés. Et à la fin, je vous laisserai un petit instant pour faire la compilation, l'addition de vos chiffres, et je vous donnerai les significations de votre petit test, quel est mon quotient humoristique. Donc, le premier énoncé est probablement fait, je vais juste le répéter pour prendre la séquence. Donc, 1, je crois sincèrement avoir un bon sens de l'humour. 2, je suis confortable quand les gens créent ou font un humour sain autour de moi. J'embarque dans le jeu et je suis à l'aise avec ça. Jamais je n'irai à la salle de bain pour fuir quand les gens sont en état de créer de l'humour autour de moi. Alors, entre 0 et 3, où vous situez-vous? Énoncé numéro 3. Je crois que les autres me considèrent comme étant quelqu'un qui a un bon sens de l'humour plutôt qu'un air sévère. J'ai le sourire facile et spontané quand je rencontre quelqu'un. 5. J'aime rire. 6. Je suis capable de rire facilement. 7. Je suis facilement capable de limiter certains effets négatifs en apparence des éléments extérieurs tels la température, l'attitude des autres. Je garde généralement ma bonne humeur. 8. Je suis capable de rire de moi, sans jugement, de mes bévues. 9. Je m'offre fréquemment des sources de plaisir, de joie dans la vie de tous les jours. 10. Je suis parfois l'initiateur ou l'initiatrice du déferlement d'humour et de rire autour de moi. 11. J'ai de la facilité à dédramatiser par l'humour. 12. En ce moment dans ma vie, ai-je le goût de rire encore plus et de m'amuser davantage? 13. Je me promets de m'impliquer encore plus dans mon rire, ma joie et mon humour. 14. J'affirme que gérer le stress passe souvent par le rire, la joie et l'humour pour moi. 15. Je peux aisément voir du positif dans les situations dérangeantes au quotidien. 16. J'aime m'entourer de gens ou amis joyeux, rigolos, sans voir péjoratif dans le mot rigolo, mais qui ont un sens de la joie qui s'exprime d'une façon naturelle. Alors, j'aime m'entourer de ces gens. Je suis à l'affût de ce qui est comique et joyeux autour de moi ou dans mes loisirs. 18. Je ris suffisamment au travail. 19. Je ris régulièrement à la maison. 20. Je pense mériter et être capable d'être enjoué tous les jours le plus possible. Alors, je vous laisse quelques instants pour faire la compilation, l'addition de vos chiffres du numéro 1 au numéro 20. Et après, je vous dis comment ça se situe pour vous. Juste le temps de vous laisser vous concentrer à ce niveau.
OK.
Je présume, Sophie, que tu as fait le test en même temps. Alors,
oui.
Le total sera fait. Juste me le dire, ça va me situer par rapport au niveau du délai qui devrait être sensiblement le même pour chacun.
Alors,
je vais pas savoir ton résultat, là.
D'accord. Moi, j'ai fini, mais j'ai fait 4 petits paquets de 5 questions, donc c'était plus facile pour faire le total, peut-être.
Oui, aussi, c'est une bonne idée. Alors, je vous donne les significations tout tranquillement. On dit de 0 à 20 points. Mais que se passe-t-il? Est-ce que ce serait important, peut-être, de penser davantage à vous-même, à votre bonheur? Encore plus. De 21 à 40 points. Vous pouvez dire « Oui, je me fais confiance, je pose des gestes concrets et j'ose le plaisir de plus en plus et tout ira de mieux en mieux. » De 40 à 60 points, bravo. On peut se dire « J'aime prendre plaisir à me faire plaisir de plus en plus et c'est vraiment super. » Alors, pour ceux et celles qui aimeraient télécharger, si ce n'est déjà fait, vous avez ça juste ici en dessous de l'audio. Alors, c'est aucunement le but de se juger si le pointage était plus bas ou quoi que ce soit. Bref, si on fait un bref retour sur tout ça, c'est quelle place que je me donne, moi, dans mon quotidien par rapport à ma joie, à ma santé. Oui, ça se peut des fois qu'il y ait des petits ajustements à faire, un pas à la fois. C'est comme si on se disait, on visualisait toutes les pommes de terre qu'on pourrait manger dans une vie sur un même empilement, ce serait important. Mais une à la fois, ça se fait bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est juste de se dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans l'instant qui est là, pour me créer de la joie, prendre soin de ma santé? Est-ce que je suis en train de faire les choses avec amour dans ma vie? De bien respirer, de bien manger, de bien bouger, de faire mon travail dans l'instant présent, en sachant que j'y mets mes talents uniques à contribution. Donc, c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu partager avec chacun, chacune aujourd'hui. Et Sophie, ben un immense merci pour tout ça aussi.
Écoute, c'est nous qui te remercions. Et avant de te quitter, est-ce que tu peux nous dire, pour celles qui voudraient en savoir plus, aller plus loin avec toi, comment est-ce qu'on peut faire pour te joindre et peut-être aussi donner les références de tes livres, ton ou tes livres sur le rire?
Oui, entre autres, il y a différentes façons de me rejoindre. Sur mon site internet, les www.linebolduc.com, donc LineBolduc.com. Vous avez la bibliographie complète de mes livres, dont celui qui traite du sujet d'aujourd'hui, le mieux-être par le rire, qui s'y retrouve, et un qu'on a abordé d'une certaine façon aujourd'hui, qui est les messages de l'ego, qui se retrouve aussi sur la boutique en ligne. Et si des gens voudraient en savoir un petit peu plus sur mon histoire et comment j'ai pu me réapproprier ma joie, c'est à travers mon livre Honnête du passé, Des larmes au rire, que vraiment j'ai été aussi en détail à ce niveau-là. Et vous avez 3 autres titres qui vont toucher autant l'alimentation, santé, l'amour, dépendance affective, l'abondance, qui sont disponibles et plusieurs CD. Donc, tout ça se retrouve sur lynnbolduc.com. Et vous avez aussi l'opportunité de venir me rejoindre via mon petit bulletin ressourcement gratuit, mon infolettre que j'envoie environ aux 10 jours, 2 semaines et qui vont toucher différents sujets qui vont être en lien avec la santé, l'amour, l'abondance, bref, les sujets qu'on a partagés aujourd'hui et beaucoup plus. Il va y avoir de plus en plus d'audio, vidéo que je vais partager d'une façon gratuite aussi à ce niveau-là sur mon bulletin. Donc, l'inscription peut se faire sur lynnbolduc.com également. Et vous avez toujours ma page professionnelle Facebook et LinkedIn sur laquelle vous me retrouvez et ce sera un plaisir de vous y accueillir et de partager. Et il y a toujours aussi, à travers la francophonie, la présence de conférences et ateliers qui peuvent être disponibles. S'il y a des gens qui ont le goût d'organiser quelque chose, où que vous soyez, ce sera un plaisir d'aller vous visiter également.
Ah, super, d'accord. Et donc, je voulais vous dire à toutes, vous avez maintenant, la conférence se termine et vous allez vous retrouver avec la page de commentaires et je vous encourage à laisser toutes vos remarques, questions, si vous avez des témoignages, les experts peuvent tout à fait venir, d'ailleurs je le dis Lynn à cette occasion, venir passer sur le site et venir maintenir du contact avec vous, répondre éventuellement aux questions, s'il y en a, et voilà.
Génial. Ce sera un plaisir de communiquer ensemble. Alors, merci infiniment, Sophie. Merci à chacun et chacune d'avoir pris ce temps pour vous.
Oui, et merci, toi, de nous avoir donné ton temps.
C'est un pur bonheur à renouveler.
OK, bravo.
Merci,
ben, on prend note.
Tout le monde. Merci,
oui,
Sophie.
Au revoir. Avant de nous quitter, je vous suggère d'aller voir la nouvelle page Plus de réussite que nous avons introduite aujourd'hui dans le menu. Nous vous avons concocté une belle surprise. À tout de suite !